et à tous. Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Merci de nous écouter. Au sommaire de ce numéro, nous recevrons Jean-Philippe Lajus, musicien, producteur, manager. C'est un homme discret, mais plein de projets, vous verrez. Nous recevrons également l'équipe du Label Tramp. Le tremplin Chalétois, lancé par C2L, fête ses 10 ans. C'est ce soir au Hangar, double concert gratuit. On en parle avec toute l'équipe. Et enfin, nous parlerons bière, car les producteurs de bière sont de plus en plus nombreux dans le Gâtinais et nous en avions rencontré quelques-uns qui étaient présents lors du festival La Belle Valette il y a quelques semaines, souvenez-vous. Mais on va commencer par une petite respiration musicale. Allez, à tout de suite. Nous sommes entre Loire et Loin, merci de nous écouter sur C2L et merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux sur le réseau. Abonnez-vous à notre page Facebook Entre Loire et Loin où vous pouvez retrouver tous nos invités en vidéo. Likez, commentez, partagez et comme nous, vous partez à la rencontre des gens beaux et intéressants du Gâtinais. Et justement, parmi nos talents locaux, voici un homme discret, mais très actif, musicien, producteur, manager de musique, de spectacle. Il ne manque pas de projets. Voici Jean-Philippe Lajus, au micro de Sandrine Manteau.
Bonjour à tous. Alors voilà, entre Loire et Loin, de retour sur son mythique canapé. Si vous saviez, Jean-Philippe Lajus, l'endroit sur lequel vous êtes assis.
C'est presque le mal de mer d'ailleurs. Je sens qu'on est presque sur l'eau déjà.
Oui, c'est phénoménal. Alors voilà, j'ai en face de moi un touche-à-tout quand même assez génial. C'est un type qui est à la fois ingénieur du son, musicien, producteur. Et alors, je viens de vous rencontrer, en fait, moi, Jean-Philippe Lajus, grâce à une exposition qui m'a absolument épatée. C'est l'exposition que vous consacrez à l'heure actuelle à Marcel Azola.
La collection Marcel Azola.
Collection Marcel Azola que vous avez créée en collaboration avec la fille de Marcel Azola.
Oui, Catherine Azola, qui m'a contacté. J'ai beaucoup travaillé avec Marcel Azola. Et quand Marcel est parti, Catherine m'a contacté parce que la passion de Marcel, c'était de collectionner l'accordéon, et notamment un accordéon qui raconte toute l'histoire de cet instrument, puisqu'il a des instruments de la première période. Donc là, on est au milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et de tous ces accordéons, là, on parle de plusieurs dizaines d'accordéons, pour pas dire plusieurs centaines presque. Il fallait évidemment les montrer et leur donner un peu de densité. Et donc, c'était facile de leur donner de la densité en associant à cette collection d'accordéons la carrière d'un musicien immense qui était Marcel Azola.
Alors, néanmoins, vous devez vous dire où se trouve cette exposition. Et alors là, j'ai le grand plaisir de vous décevoir absolument parce qu'en fait, l'exposition, elle est finie. Elle est finie, elle a démarré en fait, il y a eu cette avant-première au pôle culturel de Courtenay, mais elle a une carrière, elle ne va pas aller dans les cartons, cette expo, on va la retrouver un petit peu partout.
Ouais, je pense qu'on va la retrouver un peu partout parce que, évidemment, l'exposition toute seule n'existerait pas si on n'avait pas Marcel Azola à nos côtés. Et Marcel nous permet, c'est un véhicule formidable, c'est un passeport formidable, Marcel, pour aller chercher des publics qui ont adoré l'accordéon, des publics qui ont aimé l'accordéon qui fait danser, l'accordéon concertant, puisque Marcel faisait du jazz, de la musique classique, de la musique contemporaine. Et puis l'accordéon sous toutes ses formes, celui qu'on aime, celui que Brel a aimé, en lâchant ce chauffe Marcel qui l'a rendu évidemment célèbre. Mais c'est une exposition qui devrait voyager dans toute la France et peut-être plus largement dans la francophonie, en tout cas Belgique, Suisse et peut-être même Italie d'ailleurs, parce que sont ses origines. Et l'Italie est vraiment un pays d'accordéon, quoi. Ce sont des grands fabricants d'accordéon.
Alors, une exposition qui est très complète, avec donc ces accordéons en vrai. Sur une centaine d'accordéons, vous en présentez combien?
Une vingtaine. À Courtenay, vous avez pu en voir une vingtaine, mais voilà. Qui était très représentative de l'évolution de l'instrument. Je pense que sur des grosses expositions, on montera jusqu'à plus de 40 accordéons. Voilà.
Il y a eu également, vous avez eu l'idée de faire des kakémonos qui parlent de sa carrière, en fait.
Oui, qui raconte plusieurs épisodes de sa vie. En fait, Marcel, on peut le confondre sur plusieurs chapitres. Sur le chapitre de la danse, sur le chapitre de la musique concertante, sur le chapitre de la musique enregistrée, puisqu'il a travaillé avec Montand, Gréco, Barbara, Brel, Abdelmalik, plus récemment. Là, il y a un catalogue formidable. On parle beaucoup de musique classique, on parle beaucoup de l'évolution de l'instrument, mais aussi de sa carrière et de la musique classique. Il faut savoir que quand Marcel a commencé à jouer, il jouait dans les brasseries et les brasseries et les bars. Et à l'époque, il n'y avait pas la télé, donc les gens venaient chipper des partitions qui étaient sous le piano et demander aux musiciens de les jouer. Et les gens écoutaient les tubes de l'époque, qui étaient l'ouverture de Guillaume Tell, qui étaient plutôt des titres classiques, mais des grands morceaux classiques, des extraits classiques très connus.
On ne l'entend pas jouer, mais on entend beaucoup de ses interventions à la radio. Donc, met des casques.
Oui, en fait, on a saisi plus de 20 heures d'enregistrement qu'on a compilé sur une heure et demie, et où Marcel se raconte sa vie, sa carrière, ses anecdotes, ses rencontres, son envie, l'accordéon, la place de l'accordéon dans la musique. C'est très divers. Et l'idée, c'était de laisser Marcel nous parler de lui et de l'accordéon, qui est un prolongement de lui-même, finalement.
Et enfin, il y a également les formidables photos de cette photographe avec laquelle vous êtes habitué à travailler.
Oui,
c'est bien cela, qui nous propose des détails d'instruments.
Oui, des détails d'instruments. Elle nous propose de voir les accordéons qu'on ne peut pas amener, déjà. Ça, c'est important. Et puis après, elle nous propose un, je dirais presque un regard croisé des instruments qui sont présentés, ce qui permet au public ensuite d'aller rechercher le détail de la photographe sur l'accordéon qui est présenté. Ça donne un angle différent. On est déjà dans la photo d'art. Et puis, ces accordéons sont des vrais bijoux. Je pense que vous les avez vus. Vous avez un regard très féminin.
Donc, il y en a qui sont vraiment
sont des bijoux.
L'accordéon
ouais.
préféré de Catherine Azor. Pas son préféré, ouais. mais elle disait, il y en a un, quand elle était petite,
petit,
il y a un
ouais.
accordéon qui ressemble à un bijou ou à un petit
ouais,
sac
ouais,
de
vrai.
Femme
c'est
très
vrai.
Ouvragé. Ouais. Bon, maintenant, donc, cette exposition, on ne peut pas vous donner de date encore, mais il semblerait qu'elle, c'est dans les tuyaux pour le Conservatoire National
de
Paris. Il y a un
site, marcel-azola.fr. Vous allez sur le site et vous trouverez toutes les informations au fur et à mesure.
Voilà. Bon, ça, c'est super. Vous disiez, Jean-Philippe, que vous avez déjà fait une autre exposition.
Oui, j'ai fait une autre exposition, toujours avec Aurélie, qui tournait autour de la soul music. Aurélie avait eu l'opportunité de faire des photos avec des figurants, des musiciens, qui permet de resituer cette période de la musique qui a été... d'ailleurs, un carrefour très important sur le plan social, sur le plan musical. Tout changeait. C'est aussi toute la culture black qui arrive en même temps dans l'univers de la musique. Donc, c'est un réel changement. C'est le brassage des sociétés, des peuples, des origines. Et je trouvais que cette expo était très intéressante. Donc, elle a fait des vrais sujets, photographiés en studio, en extérieur... Et puis, au milieu de cette exposition de photos, on met des concerts, soul music, avec des artistes différents.
Donc, on peut la ressortir n'importe quand, cette expo ?
On va la ressortir, c'est sûr, parce que dans la période qu'on vient de traverser, je pense que les expositions, de manière générale, sont une ressource pour retrouver les publics, pour les faire ressortir et leur donner envie d'être curieux. Voilà. On a besoin de rendre les gens curieux, donc les expositions servent à ça.
Alors voilà, ça c'est l'une des cordes de Jean-Philippe Lajus, mais évidemment, commissaire d'exposition, c'est pas forcément à la base sa spécialité. Alors votre spécialité, c'est par exemple encore d'organiser du concert, c'est ça ?
C'est encore de produire des concerts, moins dans cette période.
Alors,
mais
on m'avez dit qu'il y en avait 56 par terre.
Oui, oui, là, dans la période qu'on a traversée, on a mis plusieurs dizaines de dates par terre. Qu'on n'a pas toutes retrouvées, mais on a réussi à quand même quelquefois à remettre des concerts en place. Notamment, la dernière aventure, c'était à la Bellevilloise avec Patrick Coutin, le monsieur qui chante « J'aime regarder les filles » aussi, pour le resituer pour tout le monde. Et c'est un concert qu'on aura reporté 6 fois. Donc, c'est pour vous dire la difficulté qu'on a dans cette période de remettre ce qui a existé dans l'emploi du temps. Parce que évidemment là, on arrive au mois d'octobre et tout le monde arrive avec ses gros sabots, ses concerts. Moi, le premier, hein, avec ses concerts, ses albums, et c'est donc tout le monde a envie de se montrer. C'est normal. Donc il y a une sorte d'encombrement là qui arrive sur la période qui vient. Ça va pas être très très simple pour la musique. On sent que sur d'autres spectacles vivants, ça repart un peu, et notamment en province. Mais pour la musique, ça va être difficile. Et je pense que ce sont les petites salles qui vont réussir à gagner des publics et désengorger ces situations. Ce qui est une bonne chose pour la région, d'ailleurs. Parce qu'entre le Tivoli, le Hangar, peut-être le Vox, d'ailleurs, que vous connaissez bien. Je pense que ce sont des endroits qui vont redevenir fréquentés.
Et vous dites que pour le théâtre, ça marche.
Oui, pour le théâtre, ça marche, parce qu'on est sur un public... Qui est plus mûr, je dirais plus mature, hein, qui a peut-être un petit peu plus de moyens, et qui a un peu plus de moyens. C'est un public assis, c'est aussi important dans les
c'est
conditions.
C'est un public plus docile, accepte le pass sanitaire.
Les gens sont les uns derrière les autres, on n'est pas debout, ils acceptent le pass sanitaire, ils sont assis, donc c'est plus facile à gérer sur le plan.
Comment est-ce qu'un musicien, ingénieur du son, en vient à faire proposer du théâtre ?
Alors ça, c'est une drôle d'histoire. J'ai managé et produit Didier Lockwood et j'ai produit notamment le Jazz et la Diva qui a été un énorme succès.
Oui. Et qui est passé ici, donc vous
qui
l'avez programmé ici.
Qui est passé ici, entre autres, mais qui a joué pendant très très longtemps à Paris. Et cette pièce, qui était une pièce de théâtre musical, qui était la rencontre d'une artiste de la musique classique et d'un artiste du jazz, de l'improvisation, ce succès a été énorme et m'a ouvert des horizons avec des amis producteurs qui, eux, étaient plus dans le théâtre que dans la musique. Donc, ça a ouvert un petit peu mon champ de vision. J'ai participé notamment à Montargis, à la rénovation de la salle des fêtes de Montargis. Donc la question s'était posée à une époque, comment pas réorienter la salle des fêtes, mais comment l'ouvrir un peu plus, lui donner plus de résonance. Et l'idée m'est venue de proposer du théâtre, et notamment du théâtre de boulevard, ce qui permet aussi d'aller chercher des publics qu'on ne voit pas sur des programmations culturelles ordinaires, qui sont plutôt des gens devant leur poste de télé,
oui.
Donc qui nous retrouvent trois dimanches par an à la salle des fêtes.
Trois dimanches par an.
Ouais, et la salle des fêtes est pleine
et
à
ça
chaque
cartonne,
fois.
Hein.
Et ça cartonne.
Ouais. Ouais. Dites-moi, j'attrape Didier Lockwood au vol,
ouais.
Parce qu'en fait, on n'a pas dit pourquoi vous aviez fait l'expo de Marcel à Zola.
Ah,
c'est
oui.
Parce qu'en fait, vous l'avez fait travailler à Zola avec Lockwood. Bah,
j'ai aussi managé Marcel à Zola,
voilà.
Sur la fin de sa carrière, notamment le duo Lina Bossati-Marcel à Zola. Et j'ai produit un album qui est sorti chez Universal, qui s'appelle Swing Vals, où les quatre protagonistes de l'album qu'on a fait jouer ensemble ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous joué avec Stéphane Grappelli. Donc c'est un super album, je pense que chez Universal ils sont contents, moi ça va, je suis content aussi de cet album, tout va bien.
Je le veux.
Hein. Vous le voulez,
oui.
Bon. Et voilà, cette rencontre était formidable parce qu'au-delà de la question du genre musical, quand j'ai souhaité se faire rencontrer ces deux musiciens qui se connaissaient, on se connaît tous quand même, mais qui avaient eu peu l'opportunité de construire ensemble, l'idée, c'était de se faire se rencontrer deux improvisateurs, deux grands improvisateurs à la française, comme l'était un peu Stéphane Grappelli d'ailleurs. Stéphane ne se posait pas trop la question du jazz. Ce qui était intéressant, c'est l'improvisation, comme ce qu'on est en train de faire. L'improvisation,
oui.
Est une conversation à bâton rompu où on échange.
Très branché.
Et très branché.
Et si
ce n'est voilà.
pas très branché, ça ne marche pas.
Donc on a fait, mais on est bien branché, tout va bien. Merci, merci Pascal.
Merci Monsieur Weber.
Et donc c'est un album formidable parce que ce sont des gens qui ont un vécu commun, qui ont un point d'ancrage qu'est Stéphane Grappelli. Et autour de ce point d'ancrage, c'est un répertoire de valse. La valse, c'est formidable. Hein. Pour
oui.
improviser, la valse, c'est super. Et ils ont pu s'exprimer pleinement.
Quels sont les autres artistes avec lesquels vous avez énormément aimé travailler? Et peut-être quels sont les albums dont vous êtes très fiers ou les grands concerts? C'est
alors,
dur,
la
ça.
La liste
hein
est longue.
On n'en a pas parlé avant.
On prend les Français ou les étrangers?
Alors oui, juste je voulais préciser une chose. C'est que... en fait, cet homme, tout à l'heure, me disait « j'ai commencé à travailler très jeune dans le métier ». Donc, je dis « c'est pour ça qu'il a un tel parcours tout en étant très gamin ». Mais en fait, il cache bien son jeu, il n'est pas si gamin que ça.
Mais vous me reconnaissez quand même.
Alors voilà, des choses là, vous nous avez parlé extrêmement bien de cet album. Est-ce qu'il y a eu d'autres...
Oui, j'ai fait plein de choses et j'ai navigué dans tous les styles de musique parce que je suis un peu
éclectique
et enthousiaste. Oui, j'aime surtout les artistes, en fait. Mon problème n'est pas tant le projet, ce sont les artistes. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes français, Jeanne Masse, Dick Rivers, Guy Béard pendant longtemps. Et puis à l'international, j'ai fait beaucoup de concerts avec Zucchero, Paul Young, les Silencers longtemps. Voilà, pour ne prendre que. Il y a eu les Rita Mitsouko aussi, il y a eu une tournée avec les Rita. Enfin, j'ai plein d'expériences diverses et variées qui ont nourri finalement ma vie, qui m'ont permis de faire ce métier à 360 degrés. Et je suis plutôt content parce que quand le disque s'est un peu cassé la figure... À l'époque, on me reprochait beaucoup de faire justement ce métier à 360 degrés. J'entendais même des gens qui me disaient « Ouais, mais toi, tu fais tout, on ne comprend pas ce que tu fais. » Et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens comprennent un peu mieux ce que je fais parce qu'on est obligé de faire un peu tout dans ce monde, dans ce nouveau monde de la production, du réseau, où on peut, tout le monde peut montrer tout partout. Il faut avoir une connaissance un peu globale des métiers de la musique pour arriver à montrer des choses et réunir le plus grand nombre autour.
Mais alors, Jean-Philippe Lajus, c'est aussi un musicien. Et je l'écoute parler depuis tout à l'heure et je me dis, mais le musicien, il est où? Est-ce qu'il a encore le droit de s'exprimer? Comment? Il y a des failles spatio-temporelles, des fois, dans lesquelles vous pouvez vous...
Ouais, oui, je m'exprime beaucoup. Là, la semaine prochaine, je serai avec un ami, Gilles Michel, bassiste, qui est entre autres avec Jean-Jacques Milteau, Eric Bibb, Carlton Moody, enfin voilà, des gens de la mouvance très blues. Et on fait un album pour Béatrice Berthaud, qui est auteur, compositeur. Si vous vous rappelez de Colette Magny ou de gens comme ça, voilà, je pense qu'on est dans la même famille. Et c'est encore un autre point de vue de la musique, une autre expérience. Et voilà, j'adore. Donc là, il y aura beaucoup de piano, à mon avis, dans cet album. Et la musique de théâtre. Je fais aussi beaucoup de musique de théâtre.
Ah bah alors, on nous cache tout. Vraiment.
Voilà. Donc là, je viens de terminer ce matin la musique pour The Canapé, qui est la nouvelle pièce de Patrice Lecomte, avec Jean-Luc Moreau, Jean Benguigui, Laurent Gamelon, et j'en oublie. Voilà.
Bon, alors avec tout ça, avec toutes ces références françaises, internationales, que vous avez énoncées, eh bien, vous nous avez dit aussi tout à l'heure que vous baladiez un petit peu partout dans le monde.
Oui.
Et pourtant, vous habitez là, dans le Montargois, et vous avez gardé assez de fraîcheur, en fait, pour vouloir travailler sur des petites aventures qui durent, comme le label Trempe.
Oui, parce que déjà, je retrouve des amis à travers le label. Je retrouve notamment des amis avec qui j'ai commencé ma jeune carrière de musicien, où j'étais encore un piètre pianiste. Mais finalement, ils m'ont pardonné, puisqu'ils m'accueillent encore, donc tout va bien. Mais surtout, je trouve que c'est une expérience formidable, parce qu'elle est ouverte aux amateurs, et que la musique amateur, c'est le point de départ de toutes les aventures. Donc ça permet aussi... Pardon, j'apprends beaucoup, et ça permet aussi de voir quelles sont les attentes de tous ces musiciens. Et puis, l'équipe est super sympa, il y a une bonne dynamique, c'est à côté de chez moi, donc c'est toujours avec plaisir que je retrouve toute l'équipe du label Trempe.
Voilà. Bon, alors voilà, alors, au Magie, l'équipe, elle est derrière. Donc ça tombe très bien. Donc on va aller les rejoindre. Merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci à vous.
J'ai hâte de découvrir. Maintenant j'ai hâte d'écouter Berthaud là.
D'accord.
Cet artiste.
D'accord.
Ça vraiment plaisir. ça me titille. Donc voilà, rendez-vous un de ces jours pour l'exposition à Zola, l'exposition sur la soul music. Il y a tellement de choses autour de Jean-Philippe Lajus. Et puis voilà, maintenant on va vous proposer une petite interview de cette fameuse équipe du label Trempe. À plus tard.
Bonjour, je suis Jean-Paul, naturopathe dans votre région. Je vous propose du lundi au samedi ma chronique « Le Conseil Santé » sur Radio C2L pour vous donner toutes les clés de votre bien-être au quotidien.
Tiens, le 9 octobre, c'est le retour du label Trempe au hangar à Chalette.
Ah oui, j'ai vu leur Facebook, tu te rends compte? 10 ans déjà?
Oui, et pour leur anniversaire, ils ont vu les choses en grand. Un concert exceptionnel avec les groupes Skawax et West.
Skawax? Oh, ils nous avaient mis le feu lors de leur victoire au tremplin il y a quelques années.
Et West, c'est génial avec leurs différentes reprises de U2, Lenny Kravitz, Muse, Radiohead, Ed Sheeran et plein d'autres.
Et puis, comme d'habitude, c'est gratuit. Pense à valider ton pass sanitaire pour la soirée.
Label Trempe, 10 ans déjà. Concert gratuit le 9 octobre à 20h30 au hangar de Chalette-sur-Loing. 5 rue de la Forêt, entrée gratuite, restauration sur place, passe sanitaire obligatoire. En partenariat avec Just Drums, JPL Artiste, La Fracama, Studio Émergence, Plus de Bière, Au Terroir, Méga FM, l'agglomération Montargoise, Chaque Sécurité, Imprimerie Le Loup, Crédit Mutuel, C2L et la ville de Chalette.
C2L.
C2L. Depuis Chalette, entre Loire et Loing.
Entre Loire et Loing.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing. Merci de nous écouter sur C2L. Et les revoilà. Avec la crise sanitaire, les salles de spectacle avaient fermé et le label Trempe avait dû annuler sa saison. En 2022, ça repart, mais cette année, ce sont les 10 ans du tremplin musical chalettois. Eh bien, il faut fêter ça. Et c'est ce soir, c'est au hangar à Chalette avec un double concert. C'est gratuit avec les groupes Skawax et West. 10 ans, c'est toute une aventure, faut être motivé pour tenir la distance. Toute l'équipe du label Trempe est dans notre canapé au micro de Sandrine Manteau et il nous raconte tout ça.
Le 9 octobre prochain, au hangar de Chalette, eh bien, ça sera on fêtera les 10 ans du label Trempe. On dit Trempe ?
Trempe.
Trempe, comme une trempe, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord.
Elle est belle. C'est ça.
Bon, Didier Roquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président, donc, de cette joyeuse équipe.
C'est ça, oui.
C'est ça.
C'est ça.
En fait, aujourd'hui, on a invité ici, à Entre Loire et Loing, les piliers, semble-t-il, du label Trempe.
C'est un peu ça, oui.
Une partie oui, on le saura. Ouais. Oui, c'est ça. Mais on a dit qu'il y en avait quatre, hein, quand même. Hein. Ici, il y a Jean-Paul Blanc. Ici, Alison Buisson. Et puis, oh tiens, bonjour, Jean-Philippe Lajus, comment allez-vous?
Je représente Antoine Buisson, qui est le frère d'Alison, qui est un vrai pilier du label Trempe. Moi, je suis une petite main, je viens juste aider pour faire le son et accueillir les groupes.
Mais... Voilà, vous êtes avec Antoine, vous êtes la team ingénieur du son, c'est ça?
On essaye de faire en sorte que le moteur du bateau puisse emmener tout le monde.
Bon, c'est bien. Donc, on disait, en tout cas, votre aventure, elle a 10 ans.
C'est ça.
Et puis, elle reprend, en fait. Racontez-nous comment ça va se passer.
Écoutez, déjà, on va peut-être un tout petit peu l'historique. Donc, en fait, on a démarré en 2012. On a démarré en 2012 et on s'est dit, le problème qu'on avait dans la région, c'était que les groupes amateurs de régionaux, hein, il y avait peu de place pour jouer. Donc, du coup... On s'est dit, on va offrir une scène à ces gens-là, à ces musiciens. Et finalement, on a pris comme prétexte un tremplin, parce qu'on s'est dit, ça va peut-être motiver le public à venir pour concourir, pour aider à la participation, à avoir un public important pour les groupes, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis on ne pensait pas, évidemment, se retrouver avec 10 ans. On pensait vraiment que ça allait se terminer au bout de 2-3 ans. Quoi.
Bon, Jean-Paul Blanc, vous êtes le monsieur chiffre de la bande, il paraît. Donnez-nous les chiffres, parce qu'ils sont élogieux quand même, les chiffres.
Bien, puisqu'on parle de 10 ans, on a rencontré 360 formations qui ont postulé à venir au label Trempe. 360, il a bien fallu sélectionner. Donc on en sélectionne de 12 à 15 par an. Il y en a 3 qui sont sur liste d'attente et 12 qui seront invités donc à faire les sélections. Ça nous a fait 36 manifestations depuis ce temps-là. Donc les 10 ans, ce sera la 37e. Et on a rencontré environ 10 000 personnes, 10 000 spectateurs, dont certains sont venus plusieurs fois, bien évidemment.
Bon, Pour revenir à ces différents groupes, tout à l'heure, Jean-Philippe, vous disiez que c'était un laboratoire qui vous intéressait. C'est pour ça que vous continuez à participer à l'aventure. Racontez
oui,
ça.
Tout à fait, ouais. C'est un laboratoire parce que c'est un laboratoire à tous les étages. Hein. C'est un laboratoire pour la musique, c'est un laboratoire pour les groupes, c'est un laboratoire pour nous aussi parce que maintenant, on peut le dire, au bout de 10 ans, l'équipe est vraiment rodée. J'ai l'impression d'être en tournée avec une équipe Maus costaud, donc c'est vraiment super. Et ça n'a pas été le cas les premières années où c'était compliqué parce que vous mettez, c'était très rock'n'roll, vous mettez tous les soirs 3 groupes, 4 groupes sur scène. Et il faut que le matériel soit installé, il faut que tout le monde soit en place, que les horaires soient respectés, que les mixages soient équitables pour tout le monde et que voilà, et des fois la qualité n'est pas très égale d'un groupe à l'autre, mais tout ça a fini par trouver son rythme et donner un vrai poids au label, qui est un rendez-vous attendu pour beaucoup de musiciens. Ce que Jean-Paul pourrait rajouter, c'est la situation géographique des gens qui fréquentent le label. Je te laisse la main là-dessus, mais c'est assez impressionnant. Et puis, au jour d'aujourd'hui, bah, le laboratoire, il s'exprime totalement et nous montre des choses différentes, nouvelles, étonnantes, des fois très abouties, des fois moins abouties, mais en devenir. Et c'est l'expression d'un label trempe amateur et pleinement complet dans cette dimension-là.
D'ailleurs, on a acquis, sans vouloir se gonfler les chevilles, on a acquis une certaine notoriété au niveau du label. On bénéficie d'un très bon bouche à oreille. Et finalement, les groupes, on a très peu de mal à recruter les groupes. Ils se le disent entre eux. Et d'ailleurs, il y a certains qui ont concouru plusieurs fois. Et donc, on a effectivement des gens qui viennent à plus de 200 km de Montargis.
Oui, oui. Donc, on avait donc mis une limite à ça, hein, puisqu'on est quand même Centre-Loire. Et pour compléter ce que disait Didier tout à l'heure, on avait remarqué aussi, et surtout Didier, puisqu'il est à l'origine de cette idée, un déséquilibre entre l'ouest et l'est du département, puisque Orléans vampirise au niveau musical pratiquement... vampiriser tout un peu tout ce qui se passe. Donc on a voulu un peu rééquilibrer tout ça. Donc on ouvre sur la région Centre-Loire, mais notre notoriété nous amène à avoir des groupes qui ont postulé de Nantes, de Toulouse et d'ailleurs, sur lesquels ben, on essaye de quand même de favoriser la culture musicale locale.
Il y a la petite fée du label Trempe. Elle est là, à côté de moi, Alison. Alors, Alison, elle est trésorière, Alison, elle est secrétaire, Alison...
Elle fait les courses.
Elle fait les courses. Non, ça, c'est terrible.
Pour la vaisselle.
Oui, 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 oui. Bon, toujours est-il, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que tu t'écoutes tout à l'heure, depuis tout à l'heure, Monsieur Blanc, tu fais oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu ajoutes?
C'est une super expérience dans laquelle, moi, j'ai rejoint l'équipe, pas dès le début, mais au bout d'un an. Et clairement, c'est des manifestations que j'attends chaque année. Parce que, bah, effectivement, comme le dit Jean-Philippe, c'est une super équipe dans laquelle on se retrouve. On découvre plein de groupes qu'on ne connaît pas et plein de groupes nouveaux en devenir ou bah, qui finissent par splitter après, mais qui ont vécu leur expérience. Et en tant que musicienne de base, ouais, effectivement, c'est toujours très intéressant.
Voilà. Et ce que vous vous accordiez tout à l'heure pour dire que ce n'est pas forcément les groupes qui sont retenus, qui retenaient votre attention à vous, et que certaines pépites ne sont pas forcément reconnues du public.
C'est vrai. Bah après, on a tous des cultures musicales différentes. C'est aussi ça qui fait notre richesse. Et au niveau du jury, effectivement, on a aussi un jury qui vient de tout horizon, j'ai envie de dire. Et qui, du coup, bah, chaque membre du jury, en plus du public, peut donner son avis. Et bah, oui, effectivement, des fois, on se dit, au moment des sélections, ah, bah, ce groupe-là, il va forcément finir en finale. Et au final, bah, non.
Il y a le prix spécial du jury, néanmoins ?
Alors, il y a des prix différents, Jean-Paul pourra préciser là-dessus. Ce que je voudrais quand même apporter comme notion, c'est qu'en dehors de l'aspect du concours lui-même, l'idée du label, c'est de faire jouer les gens. C'est ça. Et qu'à partir du moment où les gens peuvent s'exprimer sur scène, ça, c'est une grande victoire. C'est oui, une grande victoire pour eux, c'est aussi une grande victoire pour nous, parce que c'est leur donner l'opportunité, c'est ce que Didier a initié, ce que Jean-Paul et Alison et Antoine portent depuis longtemps. Et ils ont créé les conditions qui font qu'aujourd'hui, c'est un vrai lieu d'expression. On peut croiser des artistes en devenir ou des artistes qui s'essayent, mais en tout cas, des gens qui cherchent à s'exprimer sur scène. Et ça, c'est la plus grande victoire. L'aspect concours, oui. Je dirais, pas
c'est
anecdotique, mais c'est le prétexte à nous retrouver.
Il n'y a pas de perdant, en fait. Il y a 12 groupes qui jouent sur scène pendant chacun 20 minutes, et à la fin, ils ont joué devant un public assez nombreux, où la salle en général est assez pleine, donc du coup, c'est très souvent d'ailleurs, c'est un des plus gros concerts qu'ils font.
Oui.
Très souvent, ils se retrouvent à jouer dans des bars et autres, et ils ont rarement l'occasion de jouer sur une scène, donc c'est ça, en fait le but du label Trompe, c'est ça. Quoi.
Oui, l'autre intérêt, c'est de poursuivre la conversation avec eux, c'est de temps en temps de trouver, ça m'est arrivé d'ailleurs, notamment avec un duo,
d'ailleurs, c'est un peu ton rôle. Hein,
guitare-batterie. Ça m'est arrivé de repérer un duo et d'emmener la discussion un peu plus loin avec eux pour déterminer qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'on peut amener dans leur production pour essayer d'aller plus loin. Bon, ce sont des gens qui ne se sont pas engagés dans la musique, mais dès qu'on sent que les gens veulent s'engager dans la musique, on essaye d'être pas loin pour pouvoir répondre aux questions et puis ouvrir un peu les portes. Si on peut le faire, je ne suis pas le seul partenaire, il y a d'autres partenaires professionnels.
Bien sûr.
Il y a un autre studio d'ailleurs qui est dans l'histoire, et c'est très très bien, ça permet de créer une vraie dynamique.
Alors au départ, on s'était posé la question de savoir comment on allait gérer cette chose. Alors du coup, on est parti sur 3 soirées de sélection avec 4 groupes à chaque fois, avec une finale en septembre. Et en fait, on est resté sur le même tempo parce que ça fonctionne très très bien. Et en fait, le bouche à oreille fonctionne, donc tout va bien.
Donc le tempo, c'est le 9 octobre, une soirée spéciale avec 2 groupes qui sont hors tremplin, évidemment, c'est le groupe West et le groupe Skawax, qui a remporté, il fut un temps...
En 2015, je crois.
En
2015.
Donc, comme quoi, des groupes du label Trompe ont la peau dure et...
Oui, tout à fait.
Hein, et continuent. Et puis après, par contre, pour les sélections, il y a un concert en mars, un en avril et un en mai, c'est ça ?
Si tout va bien, c'est ça.
Et après, il y a une grande finale.
La finale, c'est en septembre.
La grande finale, du coup, généralement, soit le dernier samedi ou l'avant-dernier samedi.
Troisième ou quatrième samedi de septembre.
Ça dépend de septembre. Et là, du coup, les groupes ont 40 minutes. Les 3 groupes finalistes ont 40 minutes pour se départager.
Et en fait, c'est les trois meilleurs des 12. C'est pas un groupe sélectionné par soirée. C'est les 3 meilleurs des 12. En fait, le soir de la 3e soirée, on sélectionne 3 personnes, enfin 3 groupes qui participeront à la finale. C'est comme ça que ça marche.
J'ai rien compris, mais j'essaierai d'y être. Hein.
12 groupes sur scène, 3 finalistes.
3 finalistes, mais qui ne sont pas forcément... les 3 peuvent être issus de la même soirée.
Voilà, c'est ça.
Ok, Monsieur Blanc, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ça ? Vous occupez des relations partenaires, de la communication, etc. Si vous avez envie de parler de vos partenaires, c'est maintenant.
Oui, entre autres, on a des partenaires institutionnels, notamment l'Aglo. Et puis, on a un certain nombre de partenaires privés qui nous suivent depuis un certain temps.
L'Aglo et la ville de Chalette.
La ville de Chalette, bien entendu, oui.
Avec le hangar.
Le hangar se trouve là-bas.
Qui est mis à disposition.
Tout le monde le sait. Ce que je voudrais rajouter pour les groupes, et il me semble que c'est important, c'est qu'on leur propose des conditions professionnelles qu'ils n'ont jamais vues, même si on l'a évoqué tout à l'heure. Mais nous, on exige d'eux qu'ils nous fassent des compositions originales, c'est-à-dire c'est de la création, c'est pas du replay de ce qu'on a entendu partout, du découvreur. On accepte parfois une réplique, une seule, et ils sont jugés sur leur qualité propre. Voilà. Et je vais appuyer également sur ce qu'a évoqué notre ami Jean-Philippe, c'est l'accompagnement. On essaye d'accompagner ces gens-là. Ils viennent, ils sont un petit peu bruts de décoffrage, ils repartent avec un peu plus de confiance en eux et la possibilité d'appeler les professionnels qu'on leur a présentés pour avoir des conseils. Et certains groupes qu'on a déjà vus ont eu un début de carrière prometteur, avec des invitations dans des communes de la région et au-delà. Donc c'est un piédestal. C'est ce qui nous fait plaisir d'ailleurs de les voir progresser derrière en disant qu'on a été un petit peu pour quelque chose dans cette...
En général, un des finalistes se retrouve au Musicaire. Donc Voilà, ça,
c'est tous les ans.
Plusieurs fois, oui, c'est ça.
Oui, tous les ans.
Il y a un des chanteurs qui se retrouve dans The Voice une fois, quelques années. Il y a des groupes qui continuent d'ailleurs de tourner, entre autres le groupe de duo, là, le duo qui a une carrière au Money for Nothing, qui se trouve. Non, Red Money, voilà. Red Money qui font une carrière
internationale.
Ils ont même signé, je crois, la musique d'une série américaine. Donc c'est plutôt pas mal, quoi.
Bon, alors, quand on a 10 ans, on change des choses ou on conforte, on consolide l'acquis ou on invente quelque chose d'autre, monsieur Lajus?
Je sais pas, moi j'ai des culottes courtes depuis l'âge de 10 ans, je les ai pas quittées, même si j'ai mis un pantalon
là,
pour la forme aujourd'hui.
Mais d'insister sur le fait que vous faites.
Mais bon, mais oui, quand on a 10 ans, on est content d'avoir 10 ans déjà, parce que exister c'est une chose, durer c'est autre chose. Et encore une fois, cette équipe a porté ce projet pour qu'ils puissent durer. Ils ont créé la dynamique qu'il fallait. Donc ça, c'est hyper important. Là, on vient quand même de passer un cap pour nous tous, hein, avec la Covid qui était terrible. C'est encore plus douloureux pour la musique amateur parce qu'il y a moins d'endroits d'expression. La musique était déjà fermée pour les professionnels, donc elle a été encore plus pour les amateurs. Donc c'est bien d'ouvrir à nouveau cette fenêtre sur le côté de la maison pour leur dire, allez, il faut que la musique aussi repasse par vous parce que on a tous été amateurs un jour et ça commence comme ça.
On a tous été amateurs un jour et ça commence comme ça. Ça c'est beau, ça va être un carton. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Didier, Jean-Paul, Alison, Jean-Philippe. Merci Antoine. Coucou mon petit tambour, il saura pourquoi je dis ça. Et puis, donc, rendez-vous le 9 octobre à Chalette, au hangar, dans d'excellentes conditions. C'est gratuit. C'est ce soir.
Ça, c'est pour la radio.
Ah, c'est ce soir, mais moi, j'ai pas du tout la notion du temps. Alors que le 9 octobre, c'est bien connu, c'est ce soir. Voilà. Merci beaucoup.
Dire oui et faire non, de renier la vie pour un concept abscond, de te dire que le lieu de conception fait de toi décision ou soumission. Tu es de cette sensibilité à te dire que ta famille est ta priorité. En parallèle, dans ce que tu fais, tu juges tes proches, vie de pipes. Et à toi, je tire mon chapeau. À toi, de porter en étendard ce fardeau. Tu es de ceux qui, malgré toi, pensent la misère comme un noble combat, mais qui tournent la tête malgré cela sur le pont. Qui se demande pourquoi tu arrives à jongler entre les émotions de pleurs, de joie et de rébellion d'un roi ou d'un simple, c'est selon le dernier qui a parlé. A raison, à toi, je tire mon chapeau. À toi, de porter en étendard ce fardeau. Laisse-moi rire en simple badaud, contempler ce que tu penses pas. We'll be right back.
H2L.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous étions au festival La Belle Valette, à Précigny-les-Pins, où nous avions rencontré beaucoup de gens beaux et intéressants. Tout ça, bah, c'est en vidéo sur notre page Facebook, où vous pouvez liker, commenter, partager, abonnez-vous, entre Loire et Loin. Mais on avait gardé quelques interviews sous le coude. Et c'est l'occasion pour nous de faire un petit focus sur un produit qui fait de plus en plus d'émules dans le Gâtinais. Depuis quelques années, en effet, les producteurs de bière se multiplient. Ils ont ouvert leur brasserie. Elle s'appelle La Suche, La Saint-Alpais, La Brasserie des Merveilles, Les Vallées Gâtinaises. En voici quelques-unes, donc, au micro de Sandrine Manteau, toujours.
Voilà, donc on est toujours au Label Valette. Et le Label Valette, ça sert à ça, ça sert à découvrir des gens qu'on ne verrait pas ailleurs, et particulièrement les producteurs. Et parmi ces producteurs du village, de producteurs, eh bien, on a vu, nous, ces deux ailes et entre Loire et Loin, qu'il y a quatre brasseurs, enfin, allez, à peu près, on va dire. Le vrai brasseur, en tout cas, il est là, c'est l'un des deux vrais brasseurs. Il est là, c'est Olivier. Olivier qui fait La Suche. Et La Suche, vous êtes à Dampierre, en Burly. Alors nous, on est du Montargois, alors on a hâte de goûter. Et Olivier, c'est venu comment cette histoire de brasserie ?
Ouh, j'ai une longue réflexion. Ça a à peu près l'idée à peu près 10 ans, en plaisantant avec des amis. Et après, ça mûrit, reconversion professionnelle, les bonnes questions à l'âge certain ou à un certain âge. Et après, c'était parti. J'ai étudié tout seul la fabrication de la bière. Et après, j'ai proposé à mes femmes, donc mes deux filles et ma femme, dire « je veux faire brasseur ». Et c'était parti. L'histoire était partie en mai 2018.
Alors, auparavant, qu'est-ce que vous faisiez et quelle a été la réaction, Olivier, de vos femmes ?
Alors, j'étais technico-commercial, j'ai une base scientifique et technique dans les études, et la réaction des femmes, c'est que du bonheur, l'enthousiasme, je ne pouvais que me lancer dans ce projet en ayant l'accord et l'approbation de mes chers et tendres.
Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas agriculteur. Or, comment est-ce qu'on fait pour faire de la bière quand on n'est pas agriculteur ? Comment ça s'est passé ? Et est-ce qu'à Dampierre-en-Burly, vous aviez de la concurrence ? Voilà.
Alors, heureusement que je ne suis pas agriculteur, parce que faire pousser quelque chose, ça serait un désastre. Donc, je préfère travailler le produit des agriculteurs et surtout d'une malterie qui l'a soufflé. Donc, c'est du régional et même du local départemental. Et ensuite, c'est transformer la bière. Donc, on a quatre éléments pour faire la bière. L'eau, qui est très important, en plus grosse quantité. Le malt, le houblon et la levure. Donc, après, on doit trouver, chaque brasseur doit trouver un équilibre dans leur bière. Quelle que soit sa recette, il doit trouver son équilibre et pour que ça soit plaisant à la dégustation et répondre à un plus grand nombre de personnes. Si on a des bières particulières, il faut qu'on en ait d'autres qui satisfassent les autres clients aussi.
Et alors, qu'est-ce que c'est le charme de La Suche, d'après vous ?
Alors, le charme de La Suche, là, je m'assois sur une gamme de 10 bières, toutes consensuelles. Là, j'ai fait une première gamme pour répondre justement à un plus grand nombre de personnes. J'ai les bières spécifiques, j'ai 6 blondes, 2 ambrées, 3 ambrées avec la bière de Noël et une brune. On va de 4 degrés à 6 degrés et ensuite, une personne lambda, un consommateur, va trouver son plaisir. La plus grande satisfaction que j'ai, c'est que mes filles valident quasiment toutes mes bières. Ma femme ne boit pas de bière, donc c'est pas très grave, elle me soutient. Mais c'est surtout le plaisir d'avoir le retour de mes clients, notamment à la Belle Valette, qui dégustent mes bières et qui reviennent et qui disent « c'est ma nouvelle préférée ». Et au bout de la deuxième bière, c'est ma nouvelle préférée au fur et à mesure qu'ils découvrent la gamme. Donc ça, c'est très satisfaisant d'avoir ce retour des clients. Je fais beaucoup de marchés aussi, donc j'ai le retour des clients sur les nouveautés, sur mes tests, etc. J'aime partager, c'est pas pour rien qu'on a mis partager là, avec une belle faute d'orthographe faite exprès, parce que c'est ici qu'on veut le faire. Donc c'est des moments de bonheur. Le commerce et création des bières, c'est le moment de bonheur.
Oui, mais nous, on est dans le Montargois. Alors, Olivier, comment on fait pour la trouver, votre bière ?
Eh ben, je suis au marché de Montargis tous les samedis matins. J'ai les Pitchouns, un restaurant qui prend ma bière.
Alors, bonjour les Pitchouns, parce qu'on se régale chez vous.
Ah oui, effectivement, c'est des gens du Nord, donc j'adore. Je travaille suivant les recettes belges, beaucoup de fabrication belge, et j'ai des racines du Nord, donc on s'est bien entendu. Et je suis au marché, donc je peux livrer. Je suis Montargois de ma naissance, plus deux, et maintenant je me suis exilé avec mon épouse à Dampierre depuis une vingtaine d'années. Mais je reviens avec plaisir et bonheur sur le Montargois.
Et ben voilà, on arrête là, c'est merveilleux. C'est notre Montargois de Dampierre en Burly. C'est formidable. Voilà. Et puis je montre ça. Alors ça, c'est toutes les bières qu'on peut boire. Alors il y en a beaucoup. Puis je trouve aussi que le petit look de tout ça, le packaging, c'est très réussi. Merci encore Olivier.
Merci Sandrine.
À bientôt. Toujours avec nos histoires de brasseurs, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a quatre brasseurs, ou du moins quatre exposants à proposer des bières, et des bières très différentes les unes des autres, avec des histoires passionnantes, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Et là, par exemple, on est avec Thibaut Delvinquer, c'est ça ? J'ai bien dit ? Alors Thibaut, il est de Triguère. Alors Triguère, c'est le Castelrenardais, donc pour le coup, c'est vraiment le Montargois. Et sa spécificité, c'est qu'en l'occurrence, cette bière, la Saint-Alpin, qui est très connue et qui est bu beaucoup quand même dans le Castelrenardais, eh bien, ce n'est pas lui qui la brasse. Et pourtant, à la base, c'est une recette à lui. Alors vas-y Thibaut, raconte-nous ton histoire vraiment sympa.
Eh ben, j'ai commencé à la brasser, mais en 2018, ma maison a pris feu et j'étais dans l'incapacité de continuer à brasser. Donc j'ai trouvé une brasserie qui m'a permis de continuer mon histoire et mon aventure.
Mais à la base, t'es boulanger, Thibaut, ça n'a rien à voir.
C'est une histoire de levure, c'est la même chose.
Et puis alors, les gens te disaient qu'ils aimaient beaucoup ta bière et qu'il fallait absolument partager ta recette. Tu faisais ça pour toi, à la base.
Voilà, je faisais ça pour moi, comme les gens font de la confiture dans leur maison. Je faisais ma bière dans ma cuisine et les amis, la famille m'ont dit « Tu peux pas garder ça pour toi, partage-le, crée ton entreprise, fais-nous partager ta recette, ta bière. »
Mais alors, pourquoi cette bière, qui est une blonde, une belle blonde, pourquoi s'appelle-t-elle la Saint-Alpin ?
Donner un nom à un produit, c'est pas facile. Je me suis gratté la tête, j'ai essayé de ne pas faire comme mes concurrents et collègues brasseurs. Et fidèle à Triguère, j'ai cherché et Saint-Alpin est venu naturellement.
Voilà, parce que à Triguère, il y a une source, une jolie source, mais qui n'est pas une source de bière, hein, qui est une source d'eau, qui s'appelle la Saint-Alpin. Et puis, de là aussi, il y a une belle histoire, parce qu'il y a, comment on appelle ça, une fête, une procession qui vient de loin, la procession Saint-Alpin.
Bah, elle a été relancée en 2018.
Raconte-nous.
Qui était tombé dans les oubliettes pendant 70 ans et en 2018 avec un jeune curé dynamique,
qui s'appelle
le Père Paul.
Père Paul, salut à toi Paul, parce que je sais que tu vas partir dans le Giennois, loin de chez nous, mais on va te retrouver et on te fera venir entre Loire et Loin, tu vas nous raconter ton histoire Paul. On va te traquer et je ne te lâcherai pas parce que je t'aime, voilà. Et alors c'est lui qui t'a proposé tout ça.
C'est aussi au premier pèlerinage où que c'était le jour de mon anniversaire et il m'a dit ça s'arrose et emmène tes bières Et les 200 personnes qui avaient participé à ce pèlerinage m'ont dit « Garde pas ça pour toi, fais-le partager aux autres ».
Bon Thibaut, où est-ce qu'on peut la trouver ta bière, si ce n'est chez Marie-Laure et Alphonse Do au donjon à Château-Renard ?
Intermarché Courtenay, il y a la Bernière à Château-Renard, l'office de tourisme aussi, il y a le magasin de fleurs à Tréguer. Je suis sur le marché de Château-Renard qui est tous les 15 jours le samedi après-midi et puis le marché de Tréguer tous les vendredis soirs.
Voilà. Et c'est là qu'on voit combien nos producteurs se défoncent en fait et vont à la rencontre de nous les consommateurs. Voilà, c'est formidable. Merci Thibaut pour ta belle histoire.
Merci à toi.
Ce qui est vraiment bien, ce qui est magnifique, c'est qu'avec le label Valette, on voyage et on voyage à travers notre territoire. Et donc, on ne regrette pas d'avoir passé la journée ici au village de producteurs. Parce qu'actuellement, on est avec des brasseurs de Boine. Et donc, c'est Anne-Sophie,
c'est ça, oui.
À côté,
Thomas.
Et derrière,
Rémi.
Mais c'est une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille, puisque c'est Anne-Sophie, son mari, son frère.
C'est ça.
Et tout est parti d'une sorte de burn-out, une histoire d'amour qui dit « Ouais, chérie, qu'est-ce qu'on fait là ? Je m'emmerde dans mon boulot, je suis psychologue pour enfants et en fait l'administration m'enquiquine. » Et puis toi, ton boulot, c'était ?
Moi, j'étais électromécanicien dans l'armée de l'air.
Ouais, et ça t'enquiquinait grave aussi.
Ouais, je m'ennuie un peu, ouais.
Alors, chérie, on fait nos bagages et on part 2 ans en voyage. Et puis, quand ils sont revenus, ces deux amoureux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, toi, c'est toi qui as eu cette idée de devenir brasseur.
Non, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est que Thomas et Rémi brassaient déjà juste pour le plaisir de brasser.
Voilà.
Par contre, oui, l'idée de changer complètement de vie, elle est venue naturellement, parce qu'on en avait tous marre. Mais je pense que j'étais un peu la première à dire qu'il fallait faire quelque chose. J'ai initié le truc, mais par contre, c'était leur plaisir à eux de brasser qui a fait que ce projet de brasserie est venu.
Alors, Brasserie des Merveilles. Et quand on regarde le nom des bières, moi, tout à l'heure, j'ai dégusté la Reine de Cœur, parce que je suis une brune, en fait, dans l'âme. Ça se voit pas comme ça, mais je suis franchement une brune dans l'âme. Alors, donc la Brasserie des Merveilles, c'est Alice au Pays des Merveilles ? C'est Anne-Sophie au Pays des Merveilles ?
Un petit peu, oui. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Non, enfin, c'est Thomas qui les fait les merveilles, avec le soutien de Rémi. Moi, je goûte.
Non, mais le concept, c'est qui ?
Le concept, non, bah alors, le concept, les recettes, les bières, c'est Thomas, avec les idées aussi de Rémi. Par contre, oui, la marque, c'est moi, parce que je lisais Alice au Pays des Merveilles à l'époque de la première bière, que j'adore, et voilà. C'est venu naturellement, on a choisi la Reine de Cœur, parce qu'il y avait cette bière de caractère que vous aviez créée en premier, et donc après, on s'est dit, pourquoi pas les autres personnages, et donc la Brasserie des Merveilles, bah, c'est venu naturellement. C'est pas juste prétentieux, hein, c'est parce que, voilà, pour être dans l'univers un petit peu mystérieux, un petit peu qui donne envie, on a envie de rentrer dans le Pays des Merveilles.
Mais alors donc, on n'est pas obligé d'être agriculteur, d'être céréalier pour être brasseur ?
Non, on n'est pas obligé d'être producteur, on peut être juste brasseur. En l'occurrence, c'est ton cas.
C'est mon cas.
Et ton cas aussi.
Il faut quand même des céréales. Hein.
En fait, on a la chance d'être dans le Gâtinais entouré de céréales, en fait. Donc, il n'y a pas de souci pour en trouver des céréaliers. Hein. Voilà, donc on laisse le boulot de céréaliers à ceux qui le font et nous, on s'occupe de la bière.
Oui, mais comment on devient brasseur ? Comment est-ce que tu as acquis ton savoir-faire ?
Alors, c'est beaucoup par moi-même, hein, des recherches que j'ai faites, j'ai lu des livres.
Tu peux dire que tu as quand même goûté toutes les bières du monde pendant 2 ans.
J'ai goûté énormément de bières.
C'était la bonne excuse, non, mais clairement, il faut le dire.
J'ai goûté beaucoup de bières, et puis on lit des livres, et puis voilà, au bout d'un moment, on essaye, et puis on fait ce qu'on aime, et puis ça fonctionne au bout d'un moment, quoi.
Mais est-ce que t'as passé quand même t'as suivi des études ? Est-ce que t'es vraiment un brasseur autodidacte ?
Tout à fait, ouais, je suis autodidacte, ouais. J'ai commencé tout seul.
Et toi, en ce moment, t'es en train d'apprendre avec ton beau-frère, c'est ça ?
C'est ça, enfin d'autres.
Disons que les bases, tu les as. Ouais, les bases, tu les as.
Disons qu'avant de lancer en 2019 officiellement, ça faisait combien de temps déjà qu'on avait.
Je crois que les premières, c'était 2013-2014.
2013-2014, ouais, donc pendant quelques années, on a fait ça en tant qu'amateur.
En fait, Rémi rejoint Thomas maintenant parce que Thomas, en fait, s'est lancé en auto-entrepreneur parce qu'on a très peu investi, qu'on avait peur de se louper. Donc nous, on avait déjà lâché nos boulots. Donc Thomas a tenté. Rémi était encore en poste, mais il était à deux doigts de craquer. Voilà. Et quand ça a marché et qu'on s'est dit, il serait peut-être temps, d'avoir un peu plus de bras, Rémi a dit, je suis là. Donc voilà. Et le truc, c'est que bon, le virus est arrivé entre temps. C'était un peu trop tôt pour passer à trois parce que c'est bien de travailler à trois, mais il faut avoir des revenus pour trois. Donc Rémi est resté un petit peu dans l'ombre, moi aussi d'ailleurs. Rémi a beaucoup géré les travaux de la brasserie parce que donc Thomas actuellement brasse dans 30 mètres carrés et on a investi dans 500 mètres carrés. Donc on est propriétaire d'un local de 500 mètres carrés qui était juste un local agricole. Comme je vous ai dit, on est entouré de céréales. Donc il appartenait à un agriculteur qui entreposait juste ses céréales. Et donc il fallait tout faire. Et donc heureusement Rémi est là.
Mais comment est-ce qu'on décide à un moment donné qu'on a trouvé la bonne recette et l'identité à la bière qu'on produit?
On a forcément des bières qu'on préfère. Ouais. Et je pense qu'au bout d'un moment, on aime travailler avec certaines levures, certains houblons, etc. Il y a certaines choses qu'on aime faire et qu'inconsciemment, on va les retrouver dans plusieurs bières, etc. Donc, il y a une identité qui se crée au fur et à mesure qu'on brasse.
Ouais. Détail important aussi, on fait goûter à toute sa famille et tous ses amis, et quand tout le monde dit ouais, et ben voilà, on sait que c'est la bonne. Oui, mais voilà. C'est vrai.
Il faut aussi commercialiser pas que ce qu'on aime, mais ce que les personnes aiment. Tout le monde n'a pas le même
en
goût.
Fait,
c'est
l'avantage de la vente directe, ou en tout cas du circuit court, c'est que Thomas vend directement, ou comme là, on écoute ce que les gens disent, et Thomas s'adapte au retour qu'il a.
Bon, alors, si on veut du chapelier fou, du lapin blanc, du chat, etc. Nous, on est dans le Montargois. On fait comment?
Alors, dans le Montargois, le projet, c'est là de développer les points de vente qu'on peut avoir. C'était initialement prévu, mais bon, il y a eu le virus, donc on a un peu tout ralenti. Et puis, en fait, Thomas, lui seul, avait du mal à fournir déjà tous les clients qu'on avait. Et le... Non, oui, ça a l'air, mais non,
c'est une brasserie. Hein.
Non, mais c'est une. Non, mais c'est vrai. Bah, à 30 mètres carrés, allez bosser, entreposer dans 30 mètres carrés, vous allez voir. Non, mais enfin, les clients qu'il avait déjà et les retours font que depuis début 2020, bon, il y a eu le virus, donc forcément ça ralentit. Mais depuis début 2020, on n'a pas démarché une seule fois. C'est que du bouche à oreille. On est ici parce qu'on nous a invités. On n'a même pas demandé quoi que ce soit. Les différents points de vente qu'on a récemment. Je ne dis que la vérité. La brasserie des merveilles, je vous avais prévenu. Non, mais c'est vrai, mais c'est le travail de Thomas, c'est ses recettes. C'est juste pour dire que du coup, sur Montargis, nous, on n'a démarché personne, et donc effectivement, il n'y a pas encore forcément trop de retours, donc il n'y a pas non plus de demande. Donc là, ça va être à nous, par contre, d'aller à la recherche. On a un point de vente, je crois, sur Montargis. Deux.
Ah bah quand même, alors c'est quoi, tu t'en souviens?
Alors oui.
Le Trinquet et puis le Pizza Line. Hein.
C'est ça, le Trinquet, la zone de... Comment ça s'appelle? Ils font du squash, ils font
de l'escalade,
voilà. Et ils font, du coup, ils ont un petit bar plutôt sympa, voilà.
Villemandeur, c'est ça. Oui.
C'est ça, Villemandeur. Par contre, Montargis, il y a le restaurant Pizza Line très sympa, qui distribue les bières sur place ou à emporter, je crois d'ailleurs aussi.
Eh ben, c'est bien. Et puis on vous retrouve sur le web, etc. On va mettre toutes les coordonnées, Monsieur Weber, sous le reportage. C'est comme ça. Alors. Et merci, vous êtes charmant, vous êtes mignon comme tout. Toi, t'es un peu timide quand même, faudra regarder la caméra la prochaine fois. Merci, bravo. Et puis ça se passe à Boine. On ira un de ces quatre quand même les voir à Boine. Mais c'est vraiment la bonne idée, Monsieur Weber, cette histoire de bière, en fait, dans le village des producteurs de la Belle-Valette. Parce qu'on vient de... On a quatre histoires de bière extraordinaires et à la fois très différentes les unes des autres. Et là, on est avec Vallée Gâtinaise. Et Vallée Gâtinaise, c'est pas des brasseurs, mais ce sont des food bières et ce sont des food producteurs. Et alors, raconte-nous, Vincent Rigler, toi qui adores parler dans un micro, comment t'en es arrivé à faire cette magnifique collection de bières qui nous parle de terroir?
Dans un premier temps, on va remercier le Covid. Puisqu'en fait, elle est née à la première vague du Covid. On avait déjà des relations avec les aides d'Amélie et on s'est retrouvés avec du temps, puisqu'en événementiel, on ne travaillait plus. Enfin, voilà. Donc, avec Noémie, on a repris notre idée de bière. Et on a, par rapport à Vallée Gâtinaise, on a un engagement, c'est-à-dire qu'on a une mise en place de parcours, on a 47 parcours qui circulent avec des points d'intérêt, et notamment la mise en avant.
Je t'arrête tout de suite, parce qu'en fait, Vallée Gâtinaise, on est très exactement entre Louanne, la Cléry, c'est ça à peu près, et le Loing.
Et le canal de Briare.
Voilà, hein, et ces deux jeunes-là, je suis gentille avec toi, t'as vu. Mais avec elle, je suis réaliste. Hein. Noémie Perrier, Vincent Rigler, ils sont placés, en fait, ils appellent ça des basses camps, parce que c'est des jeunes branchés, tu vois. Et ils sont à Champ de Coq. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Reparlons de notre bière.
Donc, première vague, on est repassé avec les aides d'Amélie et on leur a expliqué notre projet. Nous, enfin, avec Noémie, ce projet, on n'aurait pas... Il aurait mis 2-3 ans à mûrir si on voulait le faire indépendamment, en toute indépendance. Et on avait déjà une collaboration avec eux, puis il y avait la partie sociale qui représentait. Voilà, on leur a expliqué, on leur a dit notre engagement vis-à-vis des producteurs et notre idée de séparer la mise en avant de nos différentes collections de bières, et notamment pour mettre en valeur le safran, le miel.
Voilà. Alors, qui sont ces producteurs que vous aviez envie de mettre en avant ?
Alors, en fait, nous, on est loueurs aussi de VTT assistance électrique, et il vous a dit, il y a des parcours. Donc, en fait, ces parcours vont chez les producteurs et artisans locaux. Ces producteurs, donc, il y a Monsieur Gou, il y a Monsieur Gou à Château-Renard, aux mises au vivant de l'apiculture.
Voilà.
Donc, producteur de miel. Oui. On a productrice de miel, Madame Bouvry, Jacqueline Bouvry, qui est à Saint-Hilaire-les-Andrézies. On a des safraniers, enfin des safranières, oui. Du coup. Donc, Charline Regnault du Clos de Mauquebéry à Château-Renard et Aïda Gomez de Saint-Hilaire-les-Andrézies. Voilà. Donc, les parcours vont chez eux. Et l'idée, en fait... enfin. Et puis, on est aussi loueur de paddle. Donc, à la sortie de l'eau...
Oh là là,
oui,
non mais... Ils sont très compliqués, en même temps très passionnants, hein, les Gâtinaises. Hein. Je te le dis, on n'a pas fini, Monsieur Weber, on va les revoir.
À la sortie de l'eau, en fait, les gens s'installaient à la sortie de l'eau vers nos basses camps. Et ils attendaient quelque chose. Ils voulaient une petite boisson, en fait, ces gens-là. Donc, du coup, vraiment, on s'est dit, bon, quelle est la boisson local qui pourrait être utilisé. Toi, tu as dit le cidre, il est déjà bien exploité, donc ça, on laisse. Mais quelle est la boisson auquel on peut... où on peut faire valoir toutes les richesses du terroir, en fait, toutes les richesses du territoire. Donc, on s'est dit, tiens, bière au miel, bière safranée. Et on a trouvé un brasseur qui est à Amilly, donc qui fait ça. Voilà.
Ça cogite sacrément quand même, hein, du côté du Castel Renardet et du Curtinien. Hein. Vous l'avez remarqué, hein, Monsieur Weber. Hein. Voilà. Donc, voilà cette belle histoire. Un brasseur qui est montargois et puis des belles idées et des producteurs qui sont également dans le Montargois, un petit peu plus loin. Voilà.
Nous étions entre Loire et Loing. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos invités, bien sûr, en vidéo sur notre page Facebook. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. La semaine prochaine, ça sera une émission très spéciale à laquelle vous pourrez participer puisqu'elle sera enregistrée en public au hangar à Chalette. Nous y serons vendredi 15 octobre, le vendredi prochain, donc à partir de 18h-18h30 pour enregistrer une émission sur le thème de la malbouffe avec plein d'invités très intéressants auxquels vous pourrez vous aussi, si vous venez, poser vos questions. Venez, l'émission sera donc enregistrée vendredi et puis diffusée le samedi matin sur C2L comme d'habitude. Le bar sera ouvert et à 20h30, le hangar proposera le spectacle burlesque Manger de la compagnie Zygomatique. Alors là, pour assister au spectacle, par contre, il faut réserver vos places hein, au hangar au 02 38 93 17 96. Mais vous pouvez assister à l'émission sans aller au spectacle ou inversement, ou assister aux deux. En tout cas, ne restez pas chez vous. Venez nous voir. Viendez, sortez. Et si vous voulez sortir aussi ce soir, bah, je vous rappelle que le label Tramp fête ses 10 ans au hangar, toujours avec un double concert gratuit. Merci à tous nos invités, merci à toute l'équipe, Sandrine, Anita, Patrice, Émilie, JB. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'écoute de ces deux ailes, bien sûr.
Ces deux ailes. So vicious, but baby, I'm bored.